Petit Journal de Stéphane Leneuf. Bonjour Stéphane.
Bonjour. Peut-être une sortie de crise dans le conflit des gardiens de prison. Un projet d'accord est sur la table. Il prévoit la création de plus de 1100 emplois, des mesures pour améliorer la sécurité des gardiens. Premier anniversaire sous tension pour Donald Trump. Cette nuit, les sénateurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour adopter le budget fédéral. C'est le shutdown. L'administration est bloquée. Chômage technique pour plus de 800 000 fonctionnaires. Quelle reconversion pour le site de Fessenheim. Le secrétaire d'État à la transition écologique est sur place. Les mesures évoquées, mise en place d'une fiscalité spécifique, appellent pour des projets pour les énergies renouvelables, mais pas de rencontre hier avec les salariés de la centrale. Le journal des sports avec Franck Ballanger. Tennis, il y aura au moins une Française en huitième de finale de l'Open d'Australie. Qualification de Caroline Garcia cette nuit. On parlera aussi football. Nouveau succès de Marseille à Caen, 2-0.
France Inter.
Un projet d'accord est donc sur la table dans le conflit qui oppose les gardiens de prison et la ministre de la Justice. Il prévoit notamment la création de 1100 emplois. Le texte prévoit des mesures pour améliorer la sécurité des gardiens. Vous nous détaillez ces propositions, Gabriel Pereira.
100 postes créés dès cette année, 400 l'an prochain, 300 l'année d'après. Le calendrier est précis, c'était l'une des revendications principales des surveillants de prison. Plus d'effectifs, la chancellerie semble les avoir entendus sur ce point. Autre mesure, un régime de détention défini, adapté pour les détenus radicalisés et violents. Les syndicats insistent sur le fait que ces détenus ne relèvent pas tous d'une gestion en quartier d'isolement. Eh bien, cela pourrait commencer à changer dès cette année avec la création dans un certain nombre d'établissements d'unités de vie permettant la prise en charge adaptée des détenus les plus dangereux. Ces mesures seront-elles suffisantes? L'UFAP-UNSA, le syndicat majoritaire, va maintenant consulter ses adhérents. Même chose pour la CGT pénitentiaire. Une trahison pour Force ouvrière qui n'a pas participé à ces négociations et qui appelle à durcir le mouvement.
Aux États-Unis, Stéphane, c'est donc la paralysie budgétaire, le célèbre shutdown.
On ferme, en clair. Cette nuit, les sénateurs démocrates et républicains n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour faire fonctionner l'administration fédérale qui se retrouve du coup bloquée. Pour la première fois depuis 2013, le gouvernement va devoir fermer des dizaines d'agences, suspendre le versement des salaires de plus de 800 000 fonctionnaires fédéraux, ce qui ne sont pas essentiels au fonctionnement du pays. La Maison-Blanche accuse les démocrates de prendre les Américains en otage. Un blocage dont se serait bien passé Donald Trump, qui fête aujourd'hui le premier anniversaire de son investiture. Un an après son arrivée à la Maison-Blanche, le président américain bat des records d'impopularité. 39% seulement d'opinions positives. Alors avec vous, Luc Lemonnier, on fait le bilan de cette année plutôt chaotique.
Commençons par ce qui a marché, ça va être assez simple, la réduction des impôts, 1500 milliards de dollars, gros engagement de campagne et grand succès législatif, le camp républicain saluera le cadeau aux riches et l'envolée de Wall Street. Si l'on est imaginatif, on peut estimer aussi que les coups de menton à l'adresse du leader nord-coréen l'ont amené à reprendre langue avec le voisin du Sud, à défaut de le faire renoncer à la bombe. Voilà, tout le reste relève d'une politique hasardeuse du retrait. Retrait de l'accord de Paris sur le climat, du traité de libre-échange Asie-Pacifique et peut-être demain de l'ALENA avec le Canada et le Mexique, désengagement de l'UNESCO, du pacte mondial sur la migration, menace de renier l'accord nucléaire avec l'Iran et prise de distance avec Moscou et Londres. À ces actes imprévisibles, il faut ajouter la frénésie du tweet qui frise souvent la vulgarité, l'autosatisfaction et la soif de reconnaissance. En un an, Trump a cassé les codes de la Maison-Blanche et clivé un peu plus l'Amérique.
Pendant que Donald Trump fête ses un an à la Maison-Blanche, empêtré donc dans ses problèmes de shutdown, le vice-président américain Mike Pence s'est envolé pour le Proche-Orient. Voyage initialement prévu fin décembre, mais voyage reporté en raison des tensions nées de la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Mike Pence ne rencontrera pas les Palestiniens. Pendant ce temps-là, le pape lui poursuit son voyage au Pérou, avant-dernier jour aujourd'hui. Hier, il s'est rendu en Amazonie, il s'est livré à un plaidoyer pour la défense de la biodiversité, déclarant que jamais l'Amazonie n'avait été aussi menacée.
En France, la centrale de Fessenheim fermera donc à la fin de l'année ou au plus tard début 2019.
Et pendant 3 jours, Sébastien Lecornu, le secrétaire d'État en charge du dossier sur le terrain, il sera à Colmar aujourd'hui. Il rencontrera les représentants du commerce et de l'industrie. Un comité de pilotage pour la reconversion du site a été installé. Mesures évoquées, mise en place d'une fiscalité spécifique ou encore appel à projets pour les énergies renouvelables. Les salariés, eux, sont restés sur leur faim. Une visite du site a bien été envisagée hier avec le secrétaire d'État. Elle a été annoncée puis déprogrammée. À Fessenheim, le reportage de Patrick Janton.
Premier concerné par cette fermeture, les personnels EDF et les sous-traitants, tous pensaient recevoir la visite du secrétaire d'État dans l'après-midi. Le directeur du site s'apprêtait à le guider, Marc Simon-Jean.
Nous, on a toujours dit au sein du groupe EDF qu'on respecterait la loi. Et donc là, il s'agit plus de répondre à une demande ministérielle, de visiter nos installations. Je pense que le ministre rendra compte, par lui-même, de l'excellence de la tenue de nos installations.
Des salariés inquiets pour leur avenir, à l'image de ce jeune employé, Timothée.
Ça fait des années que j'entends parler de la crise, chômage, il n'y a pas d'emploi, machin, et on décide de fermer quelque chose qui fonctionne. Il y a de l'incompréhension, hein. Quelle est la logique derrière la fermeture? On a aussi des choses ici, hein, on a nos familles, on a beaucoup de choses, on est ancré ici.
Une visite prévue et annoncée dans un premier temps avant d'être annulée, d'où la déception du personnel.
C'est de l'irrespect.
Nous, on était là pour discuter avec lui et il n'est pas foutu de venir. On a besoin de réponses, ça fait 6 ans qu'on nous dit rien, qu'on nous fait tourner en bourrique. Vous savez, c'est difficile à vivre tout ça.
EDF représente 120 000 personnes en France. On est 740. C'est une forme de dédain, ce qui nous témoigne aujourd'hui.
Le séjour du secrétaire d'État doit se poursuivre encore ce matin. Fessenheim, Patrick Janton, France Bleu Alsace pour France Inter.
Et Sébastien Lecornu annonce d'ores et déjà qu'il reviendra pour un nouveau comité de pilotage à Colmar les 12 et 13 avril prochains. À Sevran, le 14 juillet dernier, on s'en souvient, ils avaient agressé des policiers à coups de barre de fer et de parpaing. L'un des policiers avait dû ouvrir le feu pour se dégager. Plusieurs de ces agresseurs viennent d'être mis en examen, dont 2 hier soir pour tentative de meurtre. En tout, ils sont 9 suspects en détention provisoire, dont 3 arrêtés cette semaine. On l'a appris qu'hier, mais l'opération s'est déroulée lundi dernier. Pour la première fois au monde, un homme a subi une deuxième grève de la face. Cela s'est passé à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Le malade présentait un rejet chronique de sa première greffe. Elle datait de 2010. À la suite d'un don, il a donc été greffé pour la deuxième fois. Pour l'instant, son état est satisfaisant.
Le cinéma, Stéphane, le cinéma, c'est aussi de l'économie. Eh bien, le cinéma français reprend des couleurs à l'étranger.
Oui, en 2017, le cinéma français a attiré un peu plus de 80 millions de spectateurs en dehors de nos frontières. C'est beaucoup plus qu'en France, un peu plus de 78 millions d'entrées. C'est aussi 2 fois plus d'entrées qu'en 2016, une année catastrophique, on s'en souvient, pour le cinéma français à l'export. C'était à son plus bas niveau depuis 10 ans. Une explication à cette remontée, Sébastien Sabiron, Valérian, la super production de Luc Besson.
Agent Valérian, vous agirez seul.
Je pense qu'avec ma coéquipière.
C'est le film français le plus cher de l'histoire. Valérian et la cité des 1000 planètes. 197 millions d'euros de budget, un flop aux États-Unis. Et pourtant, le space opéra en anglais de Luc Besson porte le cinéma tricolore à l'export. Serge Toubiana, président d'Unifrance, chargé de la promotion du cinéma français dans le monde.
40% du nombre d'entrées des films français à l'étranger sont représentés par ce seul film de Luc Besson. Comme on dit, il y a une Luc Besson dépendance pour le cinéma français, c'est vrai. Une année avec un film de Besson, ça change tout pour le cinéma français.
Grâce à Valérian, la Chine devient le premier consommateur de cinéma français devant les États-Unis. Marché prometteur, mais difficile à pénétrer. Serge Toubiana.
C'est difficile de compter sur la Chine, il faut se battre pour que les Chinois ouvrent davantage leurs écrans. Ils ont 50 000 écrans, mais il y a un système de quotas. Donc on a droit à 5 films par an seulement, c'est très peu. Donc il faut passer une forme de censure. C'est un territoire évidemment très important qu'on ne peut pas négliger.
La comédie « Demain, tout commence » avec Omar Sy et le thriller « Overdrive » d'Antonio Maigret complètent le podium 2017. En 2018, l'action, la comédie et l'animation française devraient remplir les salles étrangères avec notamment « Taxi 5 »,« La ch'tite famille » de Danny Boone et un nouvel Astérix animé.
Et à 8h09, on retrouve Eric Delvaux et le journal des sports, bien sûr.
Et à suivre, absolument. Merci Stéphane Leneuf. Bonjour Franck Ballanger.